j'ai une petite question. Quels sont les conflits liés à ces enclosures résidentielles et est-ce que les voisins ou riverains se battent pour obtenir une servitude de passage, tout simplement? Est-ce qu'il y a du contentieux?
Oui, il y en a. Alors, il y en a. Alors, sur l'ensemble de la ville, il y a plusieurs cas. Je vais répondre peut-être pour elle. Voilà. Il y a plusieurs cas sur l'ensemble de la ville, notamment un cas dont Julien pourra vous parler, qui est le cas de Coin-Joli, sur lequel il a beaucoup travaillé. Et on a nous-mêmes été associés et sollicités pour amener les médias, etc. Donc, avec un procès, hein, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, et que les plaignants ont perdu. Face à l'association, à la SL qui a fermé sans avoir de permis de construire. Alors concernant les servitudes, etc., c'est en fait très complexe. On a dit tout à l'heure, il y a plusieurs lois en 2006-2007 de prévention de la délinquance qui ont rendu très compliqué le maintien de l'ouverture, ce qui suffit maintenant d'une majorité relative pour obtenir la fermeture. Il faut au contraire une très forte majorité pour garder un espace ouvert. C'est plus compliqué de garder une résidence ouverte que de la fermer. Donc il peut y avoir des conflits internes à la résidence, voilà. Et il peut y avoir aussi des conflits externes. Exemple Coin-Joli. Exemple ici, là, la mobilisation des parents d'élèves pour le maintien de l'accès des élèves à pied par la traverse de Sémurine. Il y a plein d'autres cas, hein, on pourrait les énumérer. Voilà, donc on a archivé tout ça, on n'en a pas rendu compte ici, mais oui, ça déclenche beaucoup de conflits.
Bonjour. Moi, ce qui m'a frappé dans votre carte, de toutes les résidences fermées, c'est une carte qui est au milieu de l'exposé, là, où on voit des points rouges, c'est que c'est en deuxième couronne de Marseille. C'est-à-dire que c'est pas dans la ville historique, c'est tout autour, donc c'est pas dans la ville pédestre, on pourrait dire, c'est dans la ville automobile avec de l'habitat collectif, mais en même temps, c'est une carte où il y a du vert, du rouge, pas au milieu, là, voilà. Donc c'est tout autour comme ça, y compris dans les quartiers nord. Donc c'est pas seulement dans le sud, c'est à l'est, au nord, au sud. Et donc, c'est une grande carte. C'est pas grave, j'ai noté. Ouais, peut-être celle-là, la dernière. Voilà. On voit qu'il y en a au sud, mais il y en a aussi à l'est et au nord. Donc, ça m'amène à une question d'abord. Sur les conflits sociaux, le conflit social n'est pas simplement par rapport au parc des Calanques, mais il est par rapport à des endroits où ont été construits, alors là c'est dans les quartiers nord, des grands ensembles. Voilà, de l'habitat collectif. C'est-à-dire qu'en même temps, donc si on prend la dernière date de 2013, en même temps qu'il y a des grands ensembles, il y a des coins qui se referment. Voilà. Donc là, il y a un conflit social probablement dur. Bon, et on sait que c'est là où il y a un maire Front National. Hein. Voilà, c'est pas un hasard. Bon, ça c'est un premier point. La deuxième question, c'est que effectivement, vous travaillez sur Marseille, la commune. Voilà. Or, malgré tout, avec la ville automobile, on pourrait dire ça comme ça, hein, c'est-à-dire avec les autoroutes. Voilà. La commune s'est étendue, c'est-à-dire que certes Marseille a un bout de banlieue, mais en gros Marseille, l'agglomération de Marseille dépasse la commune. Enfin, on le voit sur les cartes, il n'y a pas de problème. Donc vous n'avez pas travaillé au niveau de l'agglo, parce que bon, c'est déjà beaucoup ce que vous avez fait, et vous n'avez pas travaillé au niveau de la métropole. Non, ça c'est important parce que si on réfléchit, je finis juste, hein, en termes d'aménagement, normalement, c'est la métropole qui est censée aménager durablement cet ensemble-là. Donc, voilà, en gros, c'est ça.
Oui, bah, c'est deux remarques, hein, mais merci de les faire. Oui, bah, en effet, simplement là, on a déjà dépassé notre temps et on a. Je me décale parce que je ne vous voyais pas, vous étiez en contre-jour. Voilà, c'est maintenant je vous vois. Voilà. Non, on a fait tous ces travaux. Hein. On a évidemment très longuement analysé la diversité des motifs de fermeture d'un bout à l'autre de la ville. Ça a fait l'objet d'un rapport de plus de 200 pages au PUCA, d'un deuxième rapport de plus de 90 pages à la ville de Marseille, de plusieurs articles. Et on vous a épargné le détail parce que ce n'était pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est focalisé sur le rapport avec, enfin, la contradiction entre logique de libéralisme et force centrifuge et injonction au développement durable, c'est pour ça. Mais on pourrait vous donner plein d'exemples de cas de fermeture spontanée par malaise résidentiel à côté de grands ensembles, de résidentialisation d'ensembles, de fermeture de manière totalement sauvage avec des poses de barbelés, de gens qui réclament la présence, qui déplorent la fermeture d'un commissariat dans leur quartier et puis qui ferment. Enfin, il y a plein de raisons qui ne sont pas les mêmes d'un bout à l'autre de la ville. Hein. Donc là, aujourd'hui, on s'est focalisé sur ce qu'il y a un rapport, disons, avec le néolibéralisme, en laissant un petit peu de côté certaines aspirations sociétales ou bien des problèmes spécifiques. Et on s'est focalisé sur cette partie de la ville, mais bien entendu, ce n'est pas la seule. Et des conflits, il y en a à différents endroits. Il y a aussi des consensus et une certaine compréhension. Il y a beaucoup de gens, y compris... Alors, il y a des cas de conflit, mais il y a aussi des cas de compréhension. C'est-à-dire des gens qui sont de l'autre côté de la barrière et qui disent, ben oui... Oui, en effet, la résidence à côté, elle est fermée, mais ils ont raison, mais pourquoi je ne fermerais pas moi aussi, etc. Enfin, c'est très compliqué. Hein, donc, c'est juste un petit aperçu. Je ne sais pas si je réponds vraiment à vos remarques. Et sur les questions de manque, de peu de fermetures résidentielles dans le centre, c'est lié à nos critères, puisque le critère pour définir dans notre base un ensemble résidentiel fermé, c'était qu'il y ait un espace commun, clôturé, extérieur et non accessible à des personnes non résidentes. Donc, si vous voulez, un immeuble avec double digicode sur rue ne rentre pas dans notre catégorie. Ça ne veut pas dire que les portes sont ouvertes au centre-ville, évidemment. Hein, c'est une question vraiment de catégorie. Et en effet, notre enquête, au départ, on a lancé la première enquête, on pensait se limiter au quartier sud et on a eu la folie, enfin, j'ai eu la folie de me lancer dans une étude sur toute la ville en croyant que c'était une histoire de riches et de quartier sud. Eh ben non, pas du tout. C'est un phénomène beaucoup plus global qui s'explique par des logiques économiques, politiques, de gouvernance, de libéralisation. Et c'est ça qu'on a découvert en faisant cette étude. Mais si on l'avait anticipé, on aurait demandé beaucoup plus cher à notre premier commanditaire. Et c'est aussi la raison pour laquelle on ne s'est pas lancé dans la métropole. Mais évidemment, ce serait très intéressant... parce que Aix, le plateau d'Arbois, puis bon, la France, hein, enfin, je veux dire, et le monde aussi. Bon, voilà, donc on n'a pas de monopole, hein, mais ça sera pour une autre vie.
Je vais mettre une question très générale, déjà merci beaucoup pour l'intervention. C'est pour savoir si le phénomène était
parti. Est-ce que les intervenants peuvent se présenter, s'il vous plaît ?
Moi, je m'appelle Hélène Ferrari, je suis professeure au lycée Diderot à Marseille. Je voulais savoir si le phénomène de résidence fermée était particulièrement aigu à Marseille ou si c'est quelque chose qu'on a pu mesurer dans d'autres villes de France, Lyon, Bordeaux, etc. Merci.
Il est très aigu, ça c'est indéniable, et il est aussi en forte croissance d'une enquête à l'autre. Donc c'est ça qui nous fait quand même poser la question. C'est-à-dire que là, on a fait la première enquête entre 2007 et 2010, donc avec toute une équipe d'étudiants, et notamment donc Gwenaël Audran et Jérémy Garniaud, qui est aussi quelque part derrière, c'est les deux pionniers. Et au départ, on pensait se limiter en gros à la corniche, et puis bon, on s'est aperçu qu'il y en avait partout. Et donc finalement, ils ont fait leurs premiers travaux en prenant des échantillons tellement il y en avait. Bon. Et puis c'est un phénomène donc massif et en très forte croissance, très rapide. Mais pour autant, on n'a pas vraiment les éléments de comparaison avec des villes de taille équivalente. Intuitivement, on pense qu'il y en a plus à Marseille qu'à Lyon ou à Lille, mais il n'y a pas de méthodologie équivalente qui a été mise en œuvre dans d'autres métropoles françaises de taille équivalente, c'est-à-dire un inventaire exhaustif avec tous les moyens possibles. Au début, c'était à pied entièrement, parce qu'on a, à l'époque, c'est, je parle d'une époque très ancienne, où Google n'existait pas, enfin, où on n'avait pas les systèmes de Google Street View que l'on a aujourd'hui. Bon, ensuite, on les a eus, on a eu l'accès aux images aériennes, ça a beaucoup accéléré notre observation de l'espace. Donc, peut-être maintenant, on pourrait faire la même chose plus facilement, disons, dans d'autres villes. Mais voilà, donc c'est une réponse un peu en demi-teinte, si vous voulez. On a le sentiment d'un phénomène quand même très très présent, parce que regardez le poids que ça représente dans l'espace urbain, mais une question de méthodologie comparable qui n'a pas été mise en œuvre dans les autres villes, notamment Nice peut-être, en proportion de l'espace urbain. Il y a aussi les temporalités, puisque le phénomène étant en évolution, si on menait aujourd'hui les mêmes enquêtes dans d'autres villes, il faudrait recommencer qu'on ait recommencé à Marseille. Vous avez vu la rapidité du phénomène. En fait, ça devient un modèle urbain, ça devient un modèle d'habité, ça devient un modèle d'urbanité, la résidentialité, quoi. Hein, et c'est autre chose que la ville, c'est autre chose que la rue. Et ça nous envoie sur plein d'autres débats, voilà, sur lesquels on a fait des PowerPoint dans d'autres circonstances.
Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, j'aurais une petite.
J'ai une petite qui s'adresse à Damien, pardon, Arlette Herra, LPD, urbaniste et école d'architecture. Par rapport à la carte que tu as présentée sur l'accessibilité aux, que tu nommes les espaces verts, la grande carte, et où on voit l'impact en fait des résidences fermées sur l'accès aux espaces, et notamment aux espaces naturels, et qui était assez interrogative, hein, donc pas celle-là, après je crois. Donc si je regarde, c'est la part des espaces végétalisés impactés par les fermetures résidentielles, plus de 74% par exemple pour le massif de Marseille-Vert. Donc cette carte m'interroge parce que je voudrais savoir en fait comment est-ce qu'elle a été construite, comment est-ce qu'on en arrive à de telles mesures.
Alors déjà je précise qu'on a fait un petit découpage, on a exclu les grands massifs de ce calcul-là. Pour diverses raisons, mais la principale c'était que il y a tellement de superficie et tellement d'usages qui diffèrent entre du végétal en ville et du végétal vraiment en colline dans la garrigue, etc. qu'on a choisi de dissocier les deux. Donc ce que vous voyez apparaître en rouge foncé près des gouttes, etc., en fait c'est la toute petite partie habité, voilà, découpé. Voilà, c'est pas ça.
C'est l'effet de la carte qui me.
Voilà.
D'accord,
merci. Alors, je me permets de poser la dernière petite question, simplement sur la manière dont les politiques publiques envisagent ces fermetures. Est-ce que les politiques qui se disent de développement durable, de transition, comment est-ce qu'elles abordent cette fermeture?
Les politiques de développement durable et de transition, je ne pourrais pas vous dire comme ça, mais en tout cas, les politiques publiques, elles l'abordent avec intérêt et préoccupation pour certains. Alors, il faut dissocier les techniciens responsables et les élus, peut-être, hein, quand même, aussi. Enfin, en tout cas, l'intérêt est attesté par le fait que notre seconde étude a été financée par la ville de Marseille, quand même, et avec l'appui de la direction de l'urbanisme et de différents services, notamment avec l'appui de personne aussi, mais enfin on a eu accès à toutes les données que l'on voulait, que ce soit du côté de la ville ou du côté de la communauté urbaine à l'époque. On a donc un contrat d'échange de données avec Marseille Provence Métropole. On leur a remis notre base des résidences fermées en format SIG avec le nom, tous les accès, etc. De manière, l'objectif étant que ça soit une aide à la décision pour définir un certain nombre de plans, notamment de déplacements, etc. Maintenant, peut-être qu'il peut y avoir une réponse qui vient de la salle, puisque les intéressés, certains sont présents. Après, ce qu'il faut avoir, on a eu beaucoup de débats, on a fait beaucoup de restitutions publiques, et il y a eu beaucoup d'échanges sur la difficulté d'intervenir. Alors, a priori, c'est déjà pas facile, parce qu'aujourd'hui, par exemple, depuis 2014, je crois, il n'y a plus besoin de permis de construire pour une clôture si celle-ci n'est pas maçonnée. Alors, vous allez me dire, avant, il y en avait besoin, mais elle se faisait quand même sans permis. Mais la ville nous a permis de consulter la base des permis, donc on a pu, grâce à des appuis quand même au sein de la ville, vérifier que la plupart de ces clôtures avaient été faites sans permis, le service n'ayant pas les moyens de s'auto-saisir des dossiers seul. Hein, il faudrait quadriller toute la ville. Ce que nous avons fait, on sait le temps qu'il faut pour le faire. Donc, voilà. Donc la loi ne permet plus ça. Donc aujourd'hui, si vous édifiez une clôture qui est amovible, enfin qui est supposée pouvoir être déplacée, vous n'avez pas besoin de permis pour le faire. Donc ça, c'est avant. Et maintenant, après, une fois qu'une résidence est construite et qu'elle a été ouverte, parce que le permis n'a pas mentionné pas de fermeture, la résidence a été construite ouverte, et la ville, par exemple, on a eu le cas dans les Hauts de Sainte-Marthe, il y a eu une petite polémique au moment de la restitution, quand on a montré à Domain Rocher nos photos et notre plan, on avait marqué comme fermé des résidences qui étaient supposées justement être restées ouvertes, la ville ayant bien veillé à ce que, normalement, il y ait des perméabilités, etc. Sauf que après, quand le produit est livré et qu'il devient une copropriété, bien, les copropriétaires peuvent décider de se fermer,
Et là, c'est très compliqué d'avoir un recours. Et c'est compliqué parce que là, et d'autant plus compliqué que la loi, alors cette fois-ci nationale, a changé et limite les recours. Par exemple, le maire ne peut plus se saisir lorsque la fermeture empêche un cheminement piétonnier qui était habituel. Ça pouvait être un motif de recours jusqu'au début des années 2000. Ce n'est plus un motif de recours aujourd'hui. Donc, je passe les détails. Il y a eu plein de changements qui font que ce n'est pas si simple que ça. Et que d'un côté, on a en effet des injonctions, des intentions, etc. Mais que la mise en œuvre concrète, y compris, je dirais, par des techniciens ou par des chargés de projets, etc., qui ont envie, ben, cette mise en application n'est pas si facile que ça. Je pense aussi aux cheminements donc, qui ont été... Il y a des cheminements qui ont été inscrits au plan de déplacement urbain. Il y a également donc, des projets, après, dans le cadre de l'éco-quartier, l'Anne-des-Calanques, qui a donc ce projet de chemin Anne-des-Calanques, bien sûr, qui permettra de maintenir des traverses publiques ouvertes. Donc, a priori, il n'y a pas de raison qu'elles ferment. Donc voilà, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait pas de réponse simple et qu'on avait un dispositif législatif qui évoluait dans un sens plutôt propice à la fermeture, avec des demandes qui étaient faites, notamment depuis 2012, au syndic, d'exercer une sorte de devoir d'information, voire de pression auprès des copropriétaires par rapport à la question de sécurité, aux compagnies, enfin, à l'assurance. Hein, si vous avez une voie privée qui est ouverte et que quelqu'un a un accident sur votre voie privée ouverte, voilà, qui est responsable, etc. Donc, du coup, tout ça va dans un certain sens, dans une certaine transition, mais pas dans celle de l'ouverture, de la perméabilité, etc.